Ça y est, nous sommes prêts à passer un moment avec vous. Nous avons la joie de recevoir à notre micro Monsieur Antenor Abazac, Christian. J'ai bien dit Christian, c'est ça?
C'est bien ça, Cathy. Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes un habitué, j'ai envie de dire, de la maison. C'est votre deuxième fois quand même.
Absolument.
Vous êtes un passionné. Avant d'aller plus loin avec vous, nous aurons l'occasion de parler de la Soufrière, année 1956 jusqu'à 76, et éventuellement nous prendrons de sa température pour les années 2016. Mais avant d'aller plus loin, qui est Monsieur Antenor Abazac Christian? Qui est-il?
Bon, ben, Antenor Abazac Christian, hein, c'est déjà un Guadeloupéen, né à Pointe-à-Pitre, pas très loin d'ici, à côté de la Mutualité, donc à l'assainissement, en 1951. Donc c'est un monsieur qui a déjà 65 ans, mais qui a fait toutes ses classes au Carnot et à Bainbridge, ici en Guadeloupe. Et puis après, une fois qu'il a eu son bac, ben, il est parti en France faire ses études qu'il passionnait, c'est-à-dire de devenir ingénieur électronicien. Et en passant informaticien et physicien, donc ce sont les études que j'ai faites après mon bac en 1970 à Bainbridge. Donc dès 76 j'étais ingénieur, et à partir de là, ben, je postulais pour faire mon service militaire et également pour travailler. Donc je ne voulais pas faire un service en caserne, je voulais simplement faire un service scientifique. Et j'étais donc VAT, volontaire à l'aide technique, en Guadeloupe, en 1976-1978. Mm-hmm. Et comme par hasard, la Soufrière est rentrée en éruption à ce moment-là. Et j'ai été pris, grâce à Michel Feuillard, hein, qui était le directeur du laboratoire de physique du globe de l'époque, d'ancien observatoire. Et j'ai été pris en tant que Guadeloupéen. Et en plus, je suis tombé dans ma passion des sciences de la Terre, puisque déjà gamin, j'aimais beaucoup les sciences de la Terre. Et bien, ça a été une espèce de, on va dire, comme vous dites, révélation. Et je me suis retrouvé donc dans la marmite de la soupe que j'aimais beaucoup à l'époque. Et voilà, et ça a donné ce que je suis aujourd'hui.
Mais cette passion pour la science, ça remonte à quand vous étiez gamin, vous vous amusiez à faire des choses. Ah oui, c'est vous.
Ah oui, depuis tout petit, la technique, je démontais des vieux postes de radio, les moteurs de voitures, de mobilettes, des choses comme ça. J'ai toujours versé vers la partie technique, la mécanique et l'électricité électronique. Et dès l'âge de 9 ans, mon premier poste de radio fait par mes soins a fonctionné. J'écoutais Guadeloupe Première actuelle, donc la radio Guadeloupe de l'époque, dans mon casque. Et bon, ensuite, la télévision est arrivée dans les années 64. Je me suis mis à la télévision, démonter, réparer les téléviseurs et tout ça. Donc ça, c'est ma jeunesse, on va dire, de technicien, de radio. Je suis un peu radio amateur aussi. Et donc, voilà, donc j'ai continué les études dans ce sens-là. J'avais une autre passion qui était celle de l'aviation, qui est toujours ma passion. Mais en fait, à l'âge de 10 ans, j'ai porté des lunettes. Et de mes deux passions, ingénieur électronicien ou pilote professionnel, ben, j'étais obligé de devenir ingénieur électronicien. Mmh. Voilà, c'est pour dessiner le personnage, voilà où je suis. Et donc une carrière de 40 ans dans le métier des volcans et tremblements de terre, à l'Observatoire volcanologique au départ. En 78, je suis reparti en France jusqu'à 82, où j'étais basé sur Paris. Mais j'ai quand même fait un beau demi-tour du monde sur des catastrophes, sur des campagnes de recherche, des campagnes océanographiques en mer, en Méditerranée, en Atlantique et aussi dans les Antilles. Mmh. Et des campagnes de recherche au Népal. Je travaillais au Népal à Katmandou pendant plusieurs mois. J'ai fait l'Himalaya pendant 15 jours avec des Sherpas et tout. J'ai travaillé en Algérie, après le tremblement de terre de la SNAM, en 1980. J'ai travaillé beaucoup à Naples, en Italie. Voilà, un petit peu à Lisbonne aussi. Donc tout ça dans la partie océanographique, donc navire océanographique, navire scientifique en mer. Et en 82, donc, je suis revenu en Guadeloupe, parce que le poste se libérait à nouveau. Et donc je suis revenu en Guadeloupe comme directeur technique de l'observatoire. Et j'ai terminé directeur adjoint. Et depuis février, 1er février 2016, donc tout récemment,
retraite.
6 mois, voilà, retraite. Mérité, je pense, mais qui me permet quand même de continuer à faire de la prévention, parce qu'il y a tout ce travail là à faire.
Tout à fait, et d'ailleurs vous êtes là aujourd'hui, hein, pour nous parler, nous faire part de votre passion. On l'appelle la grande dame, hein, la Soufrière.
Oui, la grande dame, peut-être pas la vieille, parce qu'elle n'est pas si vieille que ça, mais la grande dame,
c'est une dame
en fait, la grande jeune fille, c'est une jeune fille, même c'est un bébé et fille. Et on va en parler.
Voilà, tout à fait. Alors, on a stipulé 1956 à 1976. Pourquoi souligner cette période?
Ben, ces dates-là, ce sont deux dernières éruptions phréatiques de la Soufrière. 1956, à partir d'octobre 1956, ça a duré quelques jours, hein, une dizaine de jours au maximum. On a eu une crise sismique doublée d'une éruption phréatique. Ça veut dire d'une éruption de vapeur d'eau sur le volcan de la Soufrière. À l'époque, j'avais 6 ans, hein. Donc j'étais tout petit, mais j'ai vécu ça comme étant la fin du monde dans mon esprit. Il y avait en même temps le cyclone Betsy qui est passé au mois d'août. Donc en même temps, j'avais une personne de ma famille qui était malade, qui habitait au Sénégal et qui était rentrée en Guadeloupe, donc qui était malade. Et dans ma tête de gamin de 6 ans, cyclone Betsy, la tati malade et la souffrière de 76, de 56 en éruption. Pour moi, c'était la fin du monde.
Tout à fait.
Et voilà, ça s'est évolué comme ça. Mais cette crise de 56, c'était une petite crise climatique qu'on appelle mineure, comme celle de 1837, qui était une crise également mineure, des nombreuses crises phréatiques de la Soufrière.
On va être précis, qu'est-ce qui s'est passé en 1956?
En 1956, c'est des éruptions de vapeur d'eau. C'est-à-dire que le volcan, c'est une éponge pleine d'eau. Notre volcan de la Soufrière,
oui,
qui est en zone tropicale humide, rappelons-le, il pleut beaucoup. Nous sommes dans les records du monde de pluviométrie au niveau du massif volcanique de la Soufrière. On est entre 10 et 12 mètres d'eau par an. Je rappelle pour information que la région parisienne, c'est 80 cm. Donc on est à 10-12 mètres d'eau par an, c'est pas du tout la même chose. Et donc on ne devrait pas manquer d'eau, ceci dit en Guadeloupe. Hein. Bon, puisque la Soufrière, c'est notre château d'eau à nous. C'est celle qui alimente toute la Guadeloupe et la Grande Terre. Cette eau qui est contenue dans le volcan est surchauffée par ce qu'on appelle la nappe magmatique, la chambre magmatique qui est en profondeur sous le volcan, à l'époque à plusieurs kilomètres sous le niveau de la mer. Et toujours à l'époque, et toujours maintenant. Hein. Et donc cette chaudière qui est à 800 degrés, hein, cette masse chaude qui est à 800 degrés, de roche en fusion, quasi-fusion, chauffe l'ensemble du massif par en dessous et chauffe les nappes phréatiques, donc chauffe les poches d'eau qui sont contenues dans le volcan. Le volcan, c'est comme une éponge, donc c'est plein, en superficie, c'est plein d'eau. Et cette eau est chauffée par en dessous, et cette eau se transforme en source thermale pour beaucoup de nos sources, comme Ben Jaune, comme Ben Chaud du Matouba, comme les chutes du Carbé, etc., les sources chaudes des chutes du Carbé. Mais vous avez aussi cette eau qui est surchauffée et qui passe au stade vapeur. Et donc cette vapeur d'eau s'accumule dans les poches du volcan. Et ce volcan qui ne contient pas de cratère, hein, qui n'a pas de cratère, mais qui a surtout des gouffres, des fissures, des trous, eh bien, ces trous sont colmatés par l'érosion naturelle. Et à un moment donné, la pression de vapeur d'eau sous ces bouchons de roches, de matériaux de sol, eh bien, ce bouchon ne tient plus et explose. Et la pression de vapeur fait exploser en fait le volcan. Et c'est ce qu'on appelle une éruption phréatique. Mmh. Phréatique comme nappe phréatique.
Très bien.
Voilà, et c'est pour ça qu'on a donc ces phénomènes éruptifs ici sur nos volcans, qui sont des volcans de zones tropicales humides. Mais en fait, les éruptions phréatiques sont souvent les précurseurs des éruptions magmatiques, puisque quand la source de magma, la source de chaleur se rapproche de la surface, donc quand le magma monte, ben, il arrive à sortir et provoquer des éruptions magmatiques. Ça s'est passé à Montserrat, ça s'est passé en 1902 à la montagne Pelée, et en 1932 également. Donc, la Soufrière de Guadeloupe, c'est un volcan qui est plein d'eau, et cette eau d'abord s'évapore en surface pour faire ce qu'on appelle les éruptions phréatiques. Mmh. Et c'est ce qui s'est passé en 1956, mais seulement sur une période de 4 jours, globalement. Donc ça n'a pas duré très longtemps.
Et comment ça s'est caractérisé pour les personnes qui étaient aux alentours?
Explosion de vapeur d'eau en surface, projection de blocs de pierre, de roche dans l'atmosphère, et de matériaux très fins, des matériaux qui vont de la taille du grain de farine au bloc de pierre de la taille de la case créole. Donc ces matériaux-là vont, plus ils sont denses, plus ils sont gros, moins ils vont haut. Mais tous les matériaux fins, comme les poussières volcaniques que nous appelons des cendres volcaniques en termes techniques, et tous les matériaux comme les fluides, les gaz émis, sont projetés à haute altitude de l'atmosphère et retombent évidemment en pluie sur les régions de Saint-Claude, Bastère, Baïf, généralement les régions sous le vent.
Donc les habitants ont dû déménager?
Pas forcément. En 1976, il y a eu juste une inquiétude des populations de Saint-Claude-Bastère, mais il n'y a pas eu de déménagement, il n'y a pas eu d'évacuation.
D'accord.
Même pas spontané.
Très bien.
Voilà, donc c'était, on va dire que c'est un événement mineur dans la vie du volcan. Il y a eu un événement mineur comme ça, je disais, en 1836. Mmh. Et ça fait partie des deux petites éruptions de ce volcan de la Soufrière depuis sa naissance. Alors, petit scoop, la naissance, le volcan de la Soufrière, c'est une jeune fille.
Oui, tout à fait.
Tout qui est né en 1530.
1530.
Ça veut dire qu'il y a à peine 5 siècles. La Soufrière, le dôme volcanique de la Soufrière est sorti de terre il y a moins de 5 siècles, enfin il y a 5 siècles environ, après l'arrivée de Christophe Colomb en Guadeloupe. Quand Christophe Colomb est arrivé en Guadeloupe, ce dôme de la Soufrière n'existait pas. D'accord ? Donc c'est un volcan tout neuf, tout récent. De, si on rappelle, ramène ça à l'espèce humaine, à l'âge de l'homme qui vit en moyenne 100 ans, un volcan, ça vit 200 000 ans sans problème, 100 000 ans, 200 000 ans, 300 000 ans sans problème. Et donc 5 siècles pour un volcan comme la Soufrière, c'est un petit bébé qui vient de naître et qui a toujours son cordon ombilical. Donc vous savez que les bébés qui grandissent, ils deviennent des enfants, des adolescents, des adultes, et des enfants, adolescents et adultes font des bêtises. Donc l'avenir de la Soufrière est devant elle. Et donc les prochaines bêtises, ben, évidemment, c'est pour les générations, les nôtres et les générations futures, forcément, puisque ce volcan va faire forcément des éruptions plus ou moins graves. Et c'est sa vie, c'est son rôle.
Et on aura l'occasion d'en parler, justement, un peu plus tard. Oui. Alors là, on a fait le point concernant le 1956. D'accord, qu'est-ce qui s'est passé entre 56 et 76?
Eh bien, rien du tout. Le volcan s'est réendormi tranquillement.
C'est normal.
C'est tout à fait normal puisque c'est un volcan, on va dire que c'est un volcan explosif. La Soufrière fait partie de ce qu'on appelle des volcans explosifs. Il y a deux grandes familles de volcans dans le monde, les volcans effusifs, qui sont des volcans comme la montagne, comme le Piton de la Fournaise à La Réunion, comme l'Etna ou comme Hawaï. Ils sont des volcans à lave liquide, à lave fluide, à lave rouge, qui ont souvent des éruptions annuelles. Et qui sont souvent actifs, forcément, enfin qui sont très actifs et qui sont souvent en éruption, comme on le relate dans la presse. Alors que les volcans explosifs, eux, ils sont très peu souvent en éruption, mais ils ont de longues périodes de pause entre chaque éruption. Et la Soufrière, depuis 1530 jusqu'à aujourd'hui, n'a jamais fait d'éruption magmatique. Donc ça fait 5 siècles qu'on n'a pas eu de magma en surface et donc de lave en surface. Et par contre, on a eu des éruptions phréatiques. Alors entre 56, occasionnellement, entre 56 et 76, on a une période de repos très longue, plusieurs années, mais pour un volcan, c'est rien.
J'allais poser la question, est-ce que ça peut être inquiétant?
Mais non, parce qu'un volcan, ça vit 100 000 ans, 200 000 ans. Donc, des périodes de repos de l'ordre de 20-30 ans, c'est rien du tout. Même plusieurs siècles, c'est rien du tout. La Soufrière n'a pas fait d'éruption magmatique depuis 5 siècles. Bien sûr que plus on s'éloigne de la première éruption, plus on se rapproche de la suivante. Mais globalement, les éruptions magmatiques sous les volcans explosifs, c'est une à deux éruptions par millénaire. Donc on est sur une moyenne de 5 siècles entre deux éruptions magmatiques. Donc ça veut dire que la prochaine est à venir, bien sûr. Mais ça prévient.
Ça prévient. Alors quels sont les signes, justement?
Y a beaucoup de signes précurseurs. Alors à ce moment-là, on va parler de 76. 1976, dans ces périodes de calme qu'il y a eu entre 1956 et 1976, on a eu des petits séismes volcaniques comme activité sismique sous le volcan, des tout petits séismes volcaniques qui se produisaient, donc qui se produisent sous le volcan. Ces séismes-là sont liés à l'activité de ce qu'on appelle la nappe phréatique, une activité hydrothermale, c'est lié donc à la présence d'eau et de chaleur, qui lubrifient les fissures dans les volcans. Et à ce moment-là, comme il y a des contraintes mécaniques de pression et de chaleur, ces roches se cassent ou glissent les unes contre les autres. Et ça provoque ce qu'on appelle des petits séismes volcaniques. Ça se passe au sein du volcan ou sous la verticale du volcan. Ces tremblements de terre-là n'ont strictement rien à voir avec les volcans, avec les tremblements de terre tectoniques qui, eux, sont capables de détruire des villes. Les tremblements de terre de la Soufrière, eux, sont tellement faibles. Les plus forts peuvent atteindre la magnitude de 5. Et les plus forts vont casser les plus mauvaises maisons de Saint-Claude ou de Basse-Terre, les maisons les plus mal construites. Mais jamais vous aurez des destructions de Saint-Claude ou de Basse-Terre suite à un tremblement de terre du volcan. Et a fortiori, point à vitre. Donc les tremblements de terre des volcans ne sont pas les tremblements de terre qui détruisent des villes. Ça, il faut retenir ça. Par contre, quand ils se produisent, ils sont imprévisibles, ces tremblements de terre, mais quand ils se produisent, ils font partie des précurseurs qui annoncent un éventuel réveil du volcan. Ça veut dire que les volcans, eux, en général, préviennent. Dans le monde entier, tous les volcans préviennent. Et notamment les volcans explosifs ont des périodes de précurseurs qui peuvent durer des années, voire des dizaines d'années, avant éruption. D'accord ? Donc, c'est pour arriver en 76. En 76, le volcan est resté calme pendant plusieurs années, une vingtaine d'années. Et dès juin 1975, on a commencé à voir une suractivité en sismicité sous le volcan.
C'est-à-dire
Un plus grand nombre de séismes volcaniques sous le volcan de la Soufrière. Et ça s'est notamment vu à partir de juillet 1975, donc un an avant 76. À partir de juillet 1975, on était à une vingtaine de tremblements de terre par 10 jours, par tranche de 10 jours, alors qu'en moyenne, annuellement, le laboratoire de physique du globe, qui était l'observatoire de l'époque, avec Michel Feuillard à sa tête, enregistrait environ 150 tremblements de terre du volcan par an. En juillet 1975, on s'est retrouvé avec un taux de l'ordre de 20 tremblements de terre par 10 jours. Mm-hmm. Et ça a été donc avec des hauts et des bas. Et jusqu'à partir de novembre 1975, ça s'est confirmé avec des taux de 200 tremblements de terre par tranche de 10 jours. Alors je rappelle que nous étions à 150 par an. Mm-hmm. Donc forcément, il y a quelque chose d'anormal.
Et vous, en tant que professionnel, vous et votre équipe, hein, quand...
J'y étais pas encore. Hein,
oui, mais je veux dire, en général, les professionnels comme vous, quand ils se disent bien qu'il y a quelque chose qui...
Il se passe quelque chose d'anormal. C'est comme ça que les volcans préviennent. Enfin, nos volcans en particulier, d'autant plus qu'on en avait... Nous avions un réseau sismique qui était ce qu'il était à l'époque.
Oui.
Pas performant, fondamentalement performant, en tout cas pas comme aujourd'hui. Mm-hmm. Mais surtout, il y avait très peu de personnes. Il y avait Michel Feuillard et trois autres personnes, deux techniciens et un homme à tout faire, qui gérait ce laboratoire de physique du globe. Mm-hmm. Et ils ont eu beaucoup de travail à ce moment-là. Ils ont été assez...
Mais ils faisaient comment, eux? Parce qu'ils n'avaient pas les mêmes moyens que nous aujourd'hui, que vous aujourd'hui.
Mais ils travaillaient. C'est-à-dire qu'on avait les moyens de l'époque.
Ouais.
À l'époque, en 1976, il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait pas d'Internet.
C'est fou, hein?
Il n'y avait pas de fax. On était à base de téléx. C'était le téléphone manuel via l'opératrice, et on était à base de téléx.
Pour
monter la Soufrière, c'était à pied, forcément en voiture jusqu'au parking de Saint-Valmulet. Et jusqu'à aujourd'hui, on y monte à pied. Hein. Il n'y a pas d'accès à la Soufrière autrement. Maintenant, on utilise beaucoup l'hélicoptère, c'est vrai. Mais encore aujourd'hui, on monte au sommet à pied. À partir du parking de Saint-Valmulet ou à partir du parking des Belles-Jeunes. Mm-hmm. Mais en 1976, c'était l'aventure, en fait, de monter la Soufrière. Hein. On montait à pied à partir du parking de Saint-Valmulet qui était assez récent. Et on avait à peu près, pour les plus aguerris, les plus rapides, 30-35 minutes de marche jusqu'au sommet. Et pour le kidam moyen, c'était une heure. Une heure aller à la montée à partir du parking. Bon, nos collègues faisaient ça, un collègue chimiste qui faisait ça en 22 minutes, hein, parking à Saint-Valmulet au sommet. Mm-hmm. Bon, mais ça, c'est quand on court, mais on n'est pas là pour courir tout le temps et battre des records. Donc ça, c'est une parenthèse.
Tout à fait.
Donc à partir de novembre 75, on a eu 200 tremblements de terre par tranche de 10 jours, au lieu de 150 par an. Et à partir de là, l'observatoire de l'époque a prévenu les autorités, a prévenu la préfecture. Voilà. Et à partir de là, les choses ont commencé à se mettre en place du point de vue administratif, du point de vue sécurité civile. Mmh. Et à partir de mars, les tremblements de terre se faisant toujours plus nombreux et surtout de plus en plus forts, ils ont commencé à être ressentis par les populations. Parce que jusque-là, c'était des tremblements de terre, pour la plupart, enregistré par les instruments, par les sismographes de l'époque.
C'est ça.
Et malgré donc le petit sismographe qui était disposé dans le massif et surtout leur disposition géographique qui n'était pas idéale, les collègues ont réussi quand même à détecter l'anomalie qui se passait actuellement à ce moment-là sous la Soufrière. Mm-hmm. Et en se disant, mais attention, on a des cycles de l'ordre de 3-4 mois de crise sismique sous le volcan. Tous les 4 mois, on a un paroxysme. À partir de mars, les collègues avaient prévu que pouvait avoir un paroxysme en juillet-août, ce qui fut le cas, avec la première éruption qui s'est produite le 8 juillet 1976. Mm-hmm. Et c'est de là qu'est partie la crise de 1976, avec les précurseurs sismiques qui ont commencé à être sentis par la population depuis mars 1976.
Et bien sûr, je suppose bien que la population s'en inquiétait un petit peu.
Bien sûr, il y a eu des rumeurs, parce qu'au départ, les relations entre la préfecture et l'observatoire étaient des relations confidentielles. Mmh. En novembre, décembre, janvier, février, des relations relativement confidentielles, mais il y a eu des fuites. Et ça s'est confirmé par le fait que les populations ressentaient les tremblements de terre eux-mêmes dans leur trip, 5 à 10 tremblements de terre par nuit. Oui, bien sûr. Dans cette période-là, les gens de Basse-Terre-Saint-Claude ne dormaient pas beaucoup. Donc, il y avait de quoi s'inquiéter. C'est évident. Mais des tremblements de terre du volcan. Hein. Donc, des secousses régulièrement qui réveillaient les gens et qui, forcément, on s'inquiète. Et donc, cette inquiétude s'est trouvée, vérifiée par la première éruption phréatique du 8 juillet 1976, qui a eu lieu à 8h55 du matin. Mmh. 8h du matin et 9h du matin, quasiment. Où les nappes phréatiques du volcan ont explosé. Il y a une nappe phréatique qui a explosé et qui a provoqué donc la projection dans l'atmosphère de matériaux de poussière volcanique. En fait, qu'est-ce que c'est que les poussières volcaniques? Ce sont des cendres volcaniques. Alors, le mot cendre, c'est un terme technique. Pour vos auditeurs, il faut bien entendu qu'ils ne considèrent pas les cendres comme étant le résultat d'une combustion. Les cendres volcaniques, c'est juste un terme technique de volcanologue qui permet d'avoir une idée de la granulométrie des matériaux qui sont éjectés d'un volcan. C'est juste ça. Et en fait, les cendres volcaniques, c'est les poussières volcaniques, on préfère dire, ce sont des roches qui sont broyées. Les roches ne brûlant pas, donc la cendre volcanique n'est pas du tout le résultat d'une combustion, donc il n'y a pas de notion de feu à avoir dans ce cas-là. C'est juste une notion de granulométrie, de taille de fragments de roche. Donc c'est des roches qui sont broyées au sein du volcan suite à aux surpressions internes au volcan ou à la température qui règne dans le volcan. Donc c'est de la roche qui se trouve broyée, transformée en sable. Et les sables des plages volcaniques de la région, les sables du sud de la région de Basse-Terre, ben c'est le sable noir, ben c'est ni plus ni moins la même chose que la cendre volcanique. C'est, disons, des choses très très fines, des matériaux très fins, qui sont le résultat du broyage des roches. Les roches étant broyées dans le cas des sables des plages par la mer. Il faut que vos auditeurs sachent que toutes les roches galettes que nous avons sur les plages et dans les rivières, tous les gros blocs de roches que nous avons dans nos champs, ce sont des blocs de lave. La lave solidifiée. Donc cette lave est broyée par la mer, ça vous donne le sable des plages noires, le sable noir des plages, et cette lave est broyée par le volcan lui-même, ça vous donne les poussières volcaniques qui sont projetées en l'air.
Voilà.
Et donc des poussières volcaniques qui sont projetées en l'air, donc de la taille du grain de farine à la taille de la case créole. Hein. Donc,
la case créole.
La case créole, oui, 2-3 mètres de diamètre. Donc des blocs de roches comme ça sont projetés, y compris les petits gravillons. Hein. Donc de toutes les tailles intermédiaires sont projetées en l'air. Alors plus le bloc est gros, moins il monte haut. Mais plus le matériau est fin, plus le matériau est petit, plus il monte haut. Et ainsi que la vapeur d'eau et les gaz volcaniques et les gaz magmatiques qui accompagnent l'éruption. Donc vous avez tout ça qui est projeté en l'air le 8 juillet 1976 à 9h du matin. Et à 9h du matin, ça obscurcit le ciel, ça obscurcit le soleil. Et il y a eu 20 minutes d'obscurité à Saint-Claude. Pendant Saint-Claude, il a fait nuit à Saint-Claude à 9h du matin pendant 20 minutes. Alors imaginez-vous une population qui n'est pas prévenue de ce phénomène. Qui se retrouve dans l'obscurité, la pénombre assez complète avec une explosion au départ et un bruit qui accompagne, qui suit l'explosion, un bruit de type réacteur d'avion en décollage, mais en permanence pendant plusieurs dizaines de minutes. Vous avez vous voyez plus le soleil, vous avez le sol qui vibre en permanence sous ce qu'on appelle un trémor, c'est-à-dire c'est l'action des pressions de vapeur qui passent à travers les fissures du volcan comme dans un tuyau d'orgue, qui font vibrer le sol, ça émet un bruit effectivement pendant plusieurs dizaines de minutes et le sol se met à bouger pendant plusieurs dizaines de minutes, il fait nuit, la poussière retombe sur les gens, les gravillons aussi et ça sent le soufre.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé, dites-nous.
Ah ben, ce jour-là, à partir de 9h du matin, il y a 30 000 personnes...
Qui ont été évacuées
Non. Qui se sont auto-évacuées, qui n'ont pas été évacuées. Elles sont parties toutes seules. C'était la fuite générale et perdue. Nous étions en période de vacances scolaires, il faut le rappeler, mois de juillet, 8 juillet 76, en période de hivernage, donc de pluie, mais période de vacances scolaires, fort heureusement. Et les gens sont partis de là où ils étaient, en short, en tombe, en pyjama, comme ils étaient. Les enfants étaient à la maison, les parents travaillaient, ou les enfants étaient avec les tatis, les grands-mères, etc. Tout le monde est parti dans l'état où il était, direction le nord de la Guadeloupe. Au-delà de Basse-Terre, au-delà de Bouillante pour certains, de vieux habitants, au-delà de Capesterre-Bello pour d'autres, au-delà de Trois-Rivières. Donc c'était une espèce de fuite. Or, inorganisé, mais spontané, de 30 000 personnes sur les routes de l'époque.
Mais dites-nous, est-ce que c'est durant cette période-là que plusieurs Basse-Terriens sont montés en Grande-Terre ?
Ben, il y a un début d'exode vers la Grande-Terre. Ouais. Effectivement, les premiers Basse-Terriens sont partis vers la Grande-Terre. Bon, il faut dire que les choses s'organisaient du point de vue administratif. Il y avait les plans, c'est qui étaient réorganisés avec des communes d'accueil. Donc, par exemple, je crois, si je me rappelle bien, que la ville de Bémao accueillait la ville de Saint-Claude. Bon, mais ça s'est fait en précipitation. Ça s'est fait de manière quasiment spontanément. Les gens de Saint-Claude sont partis, pour ceux qui avaient les moyens, vers le nord Grande-Terre, vers la Grande-Terre, vers le nord de la Guadeloupe plutôt. Et c'est à partir de là que les gens ont commencé à rester en Grande-Terre. Hein, donc à partir du 8 juillet. Bon, entre le 8 juillet et le 15 août, parce que les phénomènes ont continué de s'amplifier. 30 000 personnes étant parties, vers le 13-15 juillet, les gens ont commencé à revenir, surtout que le préfet et Michel Feuillard à l'époque ont demandé à ce que les activités reprennent dans la région, puisque ça s'est un petit peu calmé. Mais en fait, l'activité n'a fait que croître. Et sur ces 30 000 personnes qui sont parties, il y a environ 10 000 qui sont revenues.
Très bien.
Mais 20 000 sont restées à l'extérieur.
Ah, ben oui.
Et le 15 août 1976, quand les phénomènes n'arrêtaient pas de s'amplifier et d'aller en augmentant, eh ben, le préfet, surtout avec le fait qu'on avait commencé à comprendre qu'il pouvait y avoir du verre frais, c'est-à-dire des laves, des matériaux frais, donc qui venaient du magma interne du volcan, qui remontaient vers la surface. On a dit, tiens, c'est comme ça arrive vers la surface, c'est que ça va dégénérer en éruption magmatique. Donc, à partir du 15 août 1976, à 7h30 du matin, il y a le professeur Tomlin, le professeur Brousse et le professeur Feuillard, les trois personnes qui étaient là à ce moment-là, qui ont demandé au préfet l'évacuation de la région.
Voilà.
Et c'est le 15 août 1976 qui a été organisé l'évacuation administrative de toute la zone depuis le matin jusqu'au soir, 21h, 22h, 23h. Les gens évacués Basse-Terre par mer, par avion et par bateau. Il y avait des cargos pour de Basse-Terre qui évacuaient les gens. Il y avait des trafics aériens sur l'aéroport du Baïf. Il y avait aussi des véhicules qui partaient direction du nord de la Guadeloupe et de la Grande Terre.
C'était spectaculaire, ça, j'imagine.
Sur les routes de l'époque.
Ouais,
donc, les routes de l'époque, il y avait à l'époque, il faut bien se rappeler qu'il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas de.
Il n'y a pas de belles routes comme maintenant.
Mais il
n'y
avait pas de route à trois voies non plus.
Tout à fait.
On était sur des routes à deux voies, voire une voie et demie. La route de National Une qui faisait Basse-Terre, Pointe-à-Pitre par Capesterre-Belleau, elle passait par Trois-Rivières, par Delay, Dodane et par le pont Soldat, qui est toujours un point voie unique. La route nationale 2 entre Basse-Terre et Des, Côte sous le vent, le pont de la rivière des Pères, la sortie de Basse-Terre vers Baïf, c'était un pont à voie unique. Le pont Plessis entre Vieux Habitants et Baïf, c'était aussi un pont à voie unique. La route nationale 3 entre Saint-Claude et Basse-Terre, le pont des Marais, c'était aussi un pont à voie unique. Donc il faut bien que la Guadeloupe se rappelle que les routes de l'époque n'étaient pas du tout celles qu'on nous a aujourd'hui.
Mais c'est inimaginable. Hein,
considérer ça comme ça. Et les gens ont été évacués. Alors ceux qui se sont auto-évacués, ça s'est relativement bien passé. Une certaine panique pressante, mais sans énervement et sans drame. Et également, le 15 août, évacuation pressante, sans énervement, un peu d'énervement quand même, mais pas de drame, sinon des crises cardiaques et des choses comme ça pour certaines personnes. C'est vrai qu'il y a quelques personnes qui ont été un petit peu malmenées physiquement et certaines ont laissé la vie, comme l'ancien maire de l'époque de Capesterre-Belleau, M. Paul Lacavé, qui est mort des suites des problèmes d'évacuation de crise cardiaque. Donc, il n'y a pas eu de victimes à part ça. Mais c'était une évacuation de deux files de véhicules, direction le nord de la Guadeloupe, sur les deux voies de gauche et de droite des routes nationales de l'époque. Et personne ne pouvait revenir sur Basse-Terre en voiture.
Mais ça fait sourire que nous, notre génération,
d'entendre ça. C'est vrai que si on regarde bien, moi qui suis un ancien maintenant de la Guadeloupe, moi j'ai bien vu les routes évoluer, l'évolution des routes. Quand je suis né, la route des Mamelles n'existait pas et il n'y avait pas de route entre D et Pointe-Noire. Il faut bien voir ça comme ça. C'est-à-dire que Pointe-Noire, c'est un cul-de-sac en venant de Basse-Terre. Moi, je suis pointois, donc j'avais des parents à Basse-Terre. On allait voir la famille à Basse-Terre. Et quand on allait en excursion à Pointe-Noire, on passait par Capesterre-Belleau, Basse-Terre, Vieux Habitants, pour aller à Pointe-Noire, qui était un cul-de-sac. Et pareil, pour aller à Déhé, on passait par Sainte-Rose, qui était un cul-de-sac. Et les gens de Déhé et Pointe-Noire se débrouillaient à communiquer entre eux par bateau. Parce qu'il y avait du trafic maritime quand même, par canot de pêcheurs surtout, et aussi par ado de mulet, ado d'âne, par morphie. Donc il faut bien qu'on remette ça dans le contexte de l'époque. 76, il y avait déjà la route des Mamelles, il y avait déjà le tour de la Guadeloupe entre Saint-Rose et Pointe-Noire, c'était déjà une route, mais les routes n'ont rien à voir avec les trois voies qu'on a actuellement, du tout, et évidemment pas les quatre voies. Donc c'était quelque chose d'assez
atypique
et d'assez extraordinaire. Donc c'est vrai que ça a marqué, ça a marqué la Guadeloupe, ça a marqué physiquement
les gens.
Mais
vous étiez là, vous étiez
jeune, mais j'étais pas arrivé encore en juillet 76, en août 76, j'étais encore à Paris. J'étais en train de terminer, j'ai eu mon diplôme d'ingénieur en juin 76, donc j'ai terminé mes études,
à la même période.
Et je commencé à chercher à travailler. Alors j'ai travaillé en France et je travaillais pour Dassault à l'époque, Dassault Aviation. Je faisais des instruments, on appelle ça des transpondeurs d'aviation, aviation militaire. Je faisais aussi, j'ai eu l'occasion de travailler à la SNCF comme auxiliaire saisonnier, à faire des annonces de train par haut-parleur et aussi à faire tourner les petites palettes d'annonces de tableaux d'affichage des trains dans la gare Montparnasse. J'habitais à côté. Donc je m'occupais comme je pouvais en attendant de trouver un poste sérieux et en attendant surtout de faire mon service militaire.
Parce effectivement, que le service militaire vous n'étiez pas en Guadeloupe.
Obligatoire à l'époque, j'étais pas en Guadeloupe.
Tout à fait.
Et j'ai appris par mon père, par courrier, parce qu'il n'y avait pas de téléphone. Enfin, le téléphone, ça ne se faisait pas comme aujourd'hui. Mon père qui m'écrit en me disant, Christian, ben, on réclame un ingénieur à la Soufrière parce que ça manque de personnel, etc. Il y a la crise. Mm-hmm. Et j'ai répondu et j'étais pris, j'étais embauché. Alors, comme VAT, volontaire à la technique, donc j'ai pu faire mon service militaire à ce moment-là, mon service national. Et grâce à l'action de Michel Feuillard, qui était le directeur de l'Observatoire à l'époque, et qui a accepté ma candidature pour venir travailler dans ce laboratoire et m'occuper des instruments. Parce qu'au départ, j'ai fait de l'électronique, et en plus radio. Donc mon boulot, c'était de faire fonctionner les sismographes et tous les instruments de mesure qui étaient placés sur le volcan et dont les mesures arrivaient à l'observatoire qui était évacué, lui, au fort d'Elgrès, par radio. Donc j'étais dans mon domaine, domaine technique. Mais déjà passionné des sciences de la Terre, je me suis en plus passionné par ces histoires de volcans et de tremblements de terre.
Et puis vous étiez chez vous en plus, ça c'est bien.
Je suis revenu en Guadeloupe. Bon, de Pointe-à-Pitre, je suis allé à Basse-Terre. Bon, ma grand-mère maternelle, mes grands-parents maternels sont originaires de Basse-Terre, Trois-Rivières Basse-Terre. Donc j'ai retrouvé plein de gens de ma famille, etc., quand les gens ont commencé à revenir.
Donc là, en 76, comme vous disiez, évacuation organisée, c'est ça ?
15 août 76, évacuation organisée, effectivement, de 52 000 personnes. Donc les 20 000 étant déjà partis le 8 juillet. Mm-hmm. 52 000 personnes évacuées le 15 août 76 de manière organisée. Et ça fait un total de 72 000 personnes évacuées pendant plusieurs semaines sur le nord de la Guadeloupe et en Grande-Terre. Et donc les gens commençaient à revenir. Alors bon, il y a eu polémique entre-temps entre divers scientifiques. Il y a eu des soucis d'interprétation des phénomènes. Alors je vais dire déjà très rapidement sur cette affaire-là à vos auditeurs qu'en fait, les soucis, c'était surtout des soucis d'interprétation, de savoir qu'est-ce qu'allait devenir cette éruption phréatique, qu'est-ce que ça allait passer au stade magmatique, parce qu'on avait à l'époque l'exemple de la montagne Pelée en 1902. Et 1932 en Martinique, qui avait fait ses nuits ardentes. Donc on s'attendait à ce qu'après le stade phréatique, qu'on passe au stade magmatique. Et donc avec cette histoire de présence de verre frais en surface, de magma frais, etc. Et en fait, il s'est avéré que les analyses des poussières volcaniques de juillet 76 étaient fausses. Et que de fait de verre frais, c'était plutôt du verre ancien. Il y avait un petit peu de verre frais, mais tellement peu que c'était pas significatif. Mm-hmm. Et c'était essentiellement des matériaux anciens qui composaient le dôme du volcan, qui étaient les matériaux donc liés à l'érosion, qui ont été projetés en l'air. Mm-hmm. Et donc, il n'y avait pas de verre frais en quantité importante. Donc, il n'y avait pas de risque d'éruption magmatique. Et ça s'est confirmé fin août, courant septembre, début septembre. Et à partir du 15 septembre, on a fait revenir les gens de Capesterre-Belle-Eau, de vieux habitants, donc les gens qui étaient évacués les plus loin. Mm-hmm. Du volcan, sont revenus les premiers. Je crois que courant novembre, c'était aussi Basse-Terre. Et à partir du 1er décembre, la population de Saint-Claude était autorisée à revenir à ses foyers pour réoccuper la ville de Saint-Claude.
D'accord.
Mais moi, je suis arrivé en Guadeloupe à ce moment-là en décembre 1976. Je devais arriver en septembre, mais pour des raisons administratives, des histoires de papiers et compagnie, on s'est retrouvé avec des retards. Et donc, je suis arrivé qu'en décembre 1976, le 12 décembre. Et moi, je suis tombé donc au fort d'Elgrès, au Fort Saint-Charles à l'époque, dans l'observatoire avec Michel Feuillard, que je ne connaissais pas, je connaissais de nom en plus. Je me rappelle, j'habitais Pointe-à-Pitre, puisque la région était encore vide. Il n'y avait pas de logement loué, il n'y avait pas de maison disponible. Moi, j'habitais Pointe-à-Pitre chez mes parents et je n'avais pas encore de véhicule puisque je venais d'arriver. Et je faisais du stop sur le pont de la Gabarre, mais pas le pont actuel. Pas le pont de l'Alliance, l'ancien pont de la Gabarre qui existait à l'époque, qui est celui qui est près du port de pêche de l'Orissis.
Tout à fait.
Le pont qui est destiné actuellement aux piétons et aux deux roues.
Voilà.
C'était le pont de la Gabarre, de la circulation automobile, qui était à deux voies, une voie dans chaque sens. Et à l'époque, il y avait tellement de peu de véhicules que je pouvais faire du stop sur le pont. Et Michel Feuillard, le matin, lui aussi habitant Pointe-à-Pitre, me récupérait pour m'emmener à Basse-Terre et pour travailler donc, la journée, effectivement, au Fort d'Elgrès. Quoi.
Mmh. Vous souriez parce que ça vous rappelle de beaux souvenirs.
Ah oui, oui, d'excellents souvenirs. Alors, pour moi, je veux dire que c'est des souvenirs excellents dans la mesure où ben, j'ai bien vécu ça et j'étais pas directement concerné. par l'éruption, par l'évacuation. Mais c'est vrai que pour d'autres, ça a été plus
la souffrance, c'est dramatique, de la souffrance. Ouais,
effectivement, ça a été des problèmes socio-économiques, etc. Donc c'est pas bénéfique pour tout le monde. Mais pour moi, ça reste positif.
Tout à fait. Alors les gens sont réhabilités, rentrent chez eux, retournent dans leur foyer.
Oui, mais pas forcément tout de suite, parce que même si l'autorisation est donnée le 1er décembre pour Saint-Claude, moi, arrivant en décembre 76, on a circulé dans Basse-Terre, la ville de Basse-Terre et Saint-Claude. Basse-Terre avait des feux de circulation à l'époque, des feux rouges, des feux tricolores. Ben on brûlait tous les feux rouges et on avait des sens interdits dans Basse-Terre. Ben on était en sens interdit. Les seules personnes qu'on avait en face de nous, c'était nos propres collègues et où les gendarmes et les CRS qui vivaient avec nous au Fort Delgrès. Les militaires qui étaient là, militaires et civils, donc les CRS de la police nationale, qui étaient là pour nous aider à travailler. Et je me rappelle aussi qu'en descendant de la Soufrière devant le camp Jacob, l'hôpital du camp Jacob, au lieu de faire le sens interdit qui nous permet de faire le tour en passant par l'église, on descendait tout droit, on n'avait personne en face de nous. Et beaucoup de rideaux de commerce étaient baissés encore, que ce soit à Saint-Claude ou à Basse-Terre. Et à tel point qu'il y avait un certain nombre de chiens errants qui erraient dans, dans la ville de Basse-Terre, des chiens qui avaient faim et qui s'étaient organisés en meute. Et ça pouvait être dangereux de descendre de voiture quand on était en ville. Donc la ville était déserte, ben, les chiens errants avaient pris la rue à leur compte et il fallait faire attention à ne pas descendre parce que les chiens avaient envie de nous mordre nos mollets et les déguster parce qu'ils avaient faim eux aussi. Donc nous on était au Fort Delgrès avec nos rations militaires, on était bien nourris et c'est vrai que c'était des choses un petit peu disons difficiles du moment. Il fallait aussi à un moment donné on a eu à gérer des meutes de chiens dans le Fort Delgrès qui étaient venus là où était la vie, là où étaient les scientifiques qui vivaient, donc il y avait des déchets et qui étaient venus et qui pouvaient presque nous menacer. Donc un jour, on a dû faire appel à la fourrière qui est venue en chercher une quarantaine, hein, comme ça. Donc c'était des épisodes de la vie au Fort Delgrès, au Fort Charles, de l'époque.
Alors, de 76 à 2000.
Oui, alors en 76, la crise a duré 9 mois.
Hein. 9 mois, d'accord.
Alors, un paquet d'éruptions phréatiques violentes, 26 pendant ces 9 mois-là. Et la dernière a eu lieu, alors moi j'ai connu celle du 29 janvier 1977, c'était une des dernières, des plus violentes, et c'est une date qui est restée gravée dans ma mémoire parce que c'est le jour de mon anniversaire. Voilà, donc j'ai des anecdotes à ce sujet-là, mais bon. La dernière éruption phréatique importante a eu lieu le 1er mars 1977, et ça s'est arrêté depuis. Il n'y en a pas eu jusqu'à aujourd'hui, nous sommes le 7 juillet 2016. Et il n'y a plus d'éruption phréatique depuis le 1er mars 1977 jusqu'à aujourd'hui. Et je vais vous faire un scoop. Oui. Personne ne sait pourquoi ça s'est arrêté. Aujourd'hui, on n'a pas de certitude scientifique pour affirmer que la Soufrière s'est calmée en 1977 parce que si ou parce que ça. On ne sait pas. On a des suppositions. On a des suppositions à, disons, à 90% vraies. C'est probable, mais on n'a pas de certitude. Donc, ceci pour vous dire que la polémique de l'époque qui s'est instaurée, et que surtout la population a gardé un souvenir un petit peu particulier, cette polémique qui s'est instaurée entre M. Allègre et M. Tazieff, c'était une polémique de personnes essentiellement, c'était pas vraiment une polémique scientifique. M. Tazieff n'a jamais été contre l'évacuation au départ. Et il s'est retourné, disons, contre le travail qui a été fait auparavant, parce qu'il n'était pas là, il n'était pas toujours là, sur place. Il s'est retourné à partir du moment où M. Allègre est devenu le patron, le directeur de l'Institut de physique du globe de Paris, dont l'observatoire dépendait. Et M. Tazieff, lui, étant le chef de service des observatoires volcanologiques de Guadeloupe et de Martinique, donc le patron de Michel Feuillard, M. Tazieff s'est retrouvé comme patron M. Allègre. Et ces deux personnes-là ne s'entendaient déjà pas bien avant. Donc ils ont profité pour régler leur compte ici. C'est il y a eu des problèmes de personnes, il y a eu des problèmes pseudo-scientifiques. Et surtout, c'est une polémique qui est partie dans les médias. Alors, c'est mauvais. Il n'est pas question, dans une situation de crise, que les autorités qui ont à gérer la crise aient des avis contraires et impossibles à manager. Et pas normal non plus que cette polémique-là tombe dans le grand public, parce que le grand public n'est pas au courant des choses. Donc le fait qu'il y ait une polémique scientifique et le fait que cette polémique existe, c'est un phénomène, c'est quelque chose de sain. Il faut que les scientifiques donnent leurs avis, qu'ils soient pour ou contre, hein, quand on a un avis à donner. Et ils ont une opinion dans un sens ou dans un autre. Et ça, c'est normal. Par contre, cette divergence ne doit pas descendre dans le grand public ni aux autorités. Et il doit y avoir un consensus qui s'établit dans le domaine scientifique qui fait que ce consensus, avec des probabilités, bien entendu, C'est ce consensus-là qui est donné aux autorités pour qu'elles fassent leur travail, parce que c'est les autorités qui ont la charge de la sécurité de la population et donc de l'évacuation, des choses comme ça. Donc il faut qu'elles sachent sur quel pied danser. Avec telle et telle possibilité d'avoir tel ou tel phénomène, il faut qu'elles aient toutes les informations. Mais il n'est pas question que des gens du grand public aient à juger, ou des journalistes aient à juger de la qualité ou de l'opportunité ou non de telle ou telle opinion.
Donc là, pour l'instant, vous voulez dire que là,
alors,
il y a silence.
C'est, hein, c'est le résultat de l'expérience de 1976-77 oui. qui me permet de dire ça maintenant. Et oui. je ne suis pas le seul à le dire. Hein. Mm-hmm. Les polémiques scientifiques, entre guillemets, c'est dans la science, c'est parfaitement normal, mais ces polémiques scientifiques restent entre scientifiques.
D'accord.
Elles
ne
doivent pas rester dans le grand public et descendre au niveau des autorités ou des journalistes, ou donc du grand public. Il faut qu'il y ait un consensus scientifique qui s'établisse dans un sens précis, et les autorités fonctionnent en fonction de ça, et la population agit en fonction de ça.
Donc là, s'il fallait prendre des nouvelles de cette grande dame, ce serait de dire que pour l'instant, elle sommeille.
Alors, depuis le 1er mars 1977 jusqu'à aujourd'hui, elle s'est réendormie. Elle s'est réendormie avec des petits sursauts quand même. Elle nous fait des petits sursauts de temps en autre. Alors, ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'en 1976, l'éponge, les nappes phréatiques se sont vidées, elles ont été évaporées, puisqu'elles sont parties sous forme d'explosion phréatique de vapeur d'eau dans l'atmosphère. Et puis, progressivement, ben, il a quand même continué à pleuvoir en Guadeloupe, continué à pleuvoir sur le massif de la Souvrière. Donc, ces nappes phréatiques se sont progressivement rechargées.
Mm-hmm.
Et donc, en 1976-77, il y a eu la fin des fumerolles. Il y a eu ce qu'on appelait les champs fumeroliens des chaudières, ça a disparu, ça n'existe toujours pas. Mais entre-temps, on a eu de nouveaux champs fumeroliens qui se sont créés avec la recharge des nappes phréatiques par la pluie. Et à partir de 1992, on a eu la réapparition des fumeroles sur le dôme.
Mmh. Alors on va rappeler pour les auditeurs, c'est quoi la fumerole ?
Ben, les fumeroles, ben, c'est ni plus ni moins que cette vapeur d'eau
voilà.
qui s'échappe des fissures du volcan mmh. et qui représente l'eau de pluie qui s'est surchauffée, qui était surchauffée dans les profondeurs du massif et qui repart sous forme de vapeur.
Mmh.
Et ces fumeroles ont des odeurs de soufre parce qu'elles sont accompagnées, c'est de la vapeur d'eau les fumeroles, hein,
oui.
c'est pas de la fumée, c'est de la vapeur d'eau. Et elles sont accompagnées de gaz qui émanent du magma qui s'infiltre aussi à travers les fissures du sol, comme l'H2S qui est ce fameux gaz des sargasses, hein, c'est la même chose.
Exact.
Le gaz carbonique, le monoxyde de carbone, le méthane, etc. Ils sont voire le SO2, donc le dioxyde de soufre, qui sont des gaz qui proviennent du magma. Le chlore également qui provient du magma. Et c'est ces odeurs qu'on a en surface qui accompagnent donc les fumeroles, ces odeurs d'œufs pourris que l'on a sur le massif de Soufrière et que les gens de Matouba Saint-Claude connaissent bien.
Voilà.
C'est comme les sargasses.
On les salue d'ailleurs s'ils sont à l'écoute.
Voilà.
Alors dites-nous, à quoi peut-on s'attendre ?
Bon, alors la Soufrière s'est calmée, avec des sursauts bien entendu, de temps en temps, mais on peut s'attendre à ce qu'il y ait de temps en temps à nouveau des sursauts. Surtout, on a une variation des nappes phréatiques, une activité hydrothermale importante qui fait qu'on a des disparitions de zones fumeroliennes et des apparitions de nouvelles zones fumeroliennes. Donc on a une variété de phénomènes qui sont liés à des choses très superficielles, donc qui sont liées à la circulation de l'eau dans le massif et qui font que des nappes phréatiques, des fumeroles apparaissent à certains endroits, disparaissent à d'autres endroits. Mais globalement, la Soufrière est globalement en train de se, on va dire, pas de se réveiller. Elle est en train l'activité fumerolienne, l'activité solfatarienne est en train de se réactiver de plus en plus. Et on a de plus en plus d'activités de fumerole, de plus en plus d'activités de chaleur, de température qui augmentent sur le massif, que ce soit au niveau des sources thermales ou au niveau des fumerolles. Et ça, c'est normal pour la vie d'un volcan. Il y a une nappe phréatique qui est essentiellement superficielle et qui fonctionne avec la température du magma. Donc c'est l'activité qu'on en a actuellement, progressivement. Alors à quoi il faut s'attendre progressivement ? Ben, que ça continue et qu'un jour ou l'autre, qu'on puisse avoir évidemment des essaims volcaniques, de tremblements de terre volcaniques sous le volcan comme on en a souvent, mais qu'un jour, c'est que ces essaims deviennent plus significatifs et commence à prévenir d'un éventuel prochain réveil du volcan.
Mmh.
Et l'éventuel prochain réveil du volcan, ça va être nouvelles éruptions phréatiques, puisque le système s'est rechargé en eau, avant éventuellement de dégénérer vers une éruption magmatique, ce qui s'est malheureusement produit pour Montserrat. Parce que si on fait le parallèle avec Montserrat, on a eu des phénomènes qui se sont créés de la même manière au départ, mais que sur 3 mois, des phénomènes phréatiques, et ça a dégénéré à Montserrat en éruption magmatique, jusqu'à aujourd'hui. Alors que nous, on a de la chance, quand on a souffrière de Guadeloupe, Eh ben, les 9 mois d'éruption phréatique se sont calmés, se sont arrêtés jusqu'à aujourd'hui.
Jusqu'à aujourd'hui.
Et ça n'est pas dégénéré en éruption magmatique, sinon on ne serait pas à Basse-Terre, ni à Baïf, ni à Saint-Claude, ni à Gourbert aujourd'hui, au moment où je vous parle. Mm-hmm. Cette zone-là a été dévastée, évacuée depuis très longtemps.
Mm-hmm. Alors que dire à toutes ces personnes, à toutes ces communes environnantes ?
Ben, que ces communes vivent sur un volcan actif qui est le volcan de la Soufrière, qui un jour ou l'autre va devoir se réveiller. Ça, c'est inéluctable. On ne peut pas le cacher aux gens. On ne peut pas laisser croire aux gens que jamais la Soufrière ne va rien faire. Ça, c'est impossible. Par contre, elle n'est pas en situation aujourd'hui de faire quoi que ce soit prochainement, parce que ça prévient longtemps avant. Donc, les gens qui habitent la région de Saint-Claude, Basse-Terre, Baïf, Gourbert, etc., Trois-Rivières, qui se rassurent, ils ont encore probablement de longs mois, de longues années à vivre au pied du volcan et avec leurs occupations, activités sociales, économiques et familiales, pourquoi pas, surtout qu'on a une période de vacances, donc c'est le moment de faire des excursions. Au pied de ce volcan, dans ce massif volcanique, qui est très beau, qui me demande qu'on le visite, pour ceux qui ne le connaissent pas, mais il n'y a pas de risque d'éruption, de réveil prochain sur le massif de la Soufrière pour l'instant. On est tranquille au minimum, pour être très pessimiste, au minimum 2 ans. Oui, au minimum 2 ans en étant pessimiste, hein, je précise bien. Si on regarde l'histoire de la Pelée en 1902, les premiers précurseurs de la Pelée qui annonçaient l'éruption de 1902 ont commencé à se faire voir 20 ans avant. Donc pour l'instant, on est loin de ce cas, de cette situation-là, la Soufrière de Guadeloupe. Donc pour le moment, il n'y a absolument aucun problème à vivre au pied du volcan qui prévient longtemps avant.
Alors juste une question, on va s'arrêter ici concernant cette partie, cette thématique que nous avions aujourd'hui, pour vous poser cette petite question. Durant toute votre carrière, hein, monsieur Anténor Abazac, Christian, quelle est la chose qui vous a le plus marqué durant votre carrière? On va dire en Guadeloupe. Hein,
en Guadeloupe. Oui, parce que effectivement, j'ai eu une partie de la carrière à l'extérieur. Oh, j'ai énormément d'anecdotes, hein, j'ai énormément d'événements qui m'ont marqué. Bon, déjà, le fait de me retrouver dans un milieu où j'ai eu à côtoyer des célébrités. Donc Michel Feuillard, déjà le premier. Ensuite, Haroun Taziev, qu'on appelait Garouk, qui était un collègue. Mm-hmm. Monsieur Jean-Claude Jean Allègre, qui était mon patron, qui est l'ancien ministre de l'Éducation nationale depuis, qui a fait un peu de politique, mais qui était le directeur de l'IPG à l'époque, l'Institut de physique du globe de Paris. J'ai eu à côtoyer d'autres personnalités que le grand public ne connaît pas. Bon, Monsieur Aubert, Monsieur Steinmetz, Monsieur Joubert, Monsieur... enfin, beaucoup de noms inconnus du grand public. Monsieur Tomlin, qui était un collègue de Trinidad, mm-hmm. qui est à la retraite aussi actuellement. Ça a marqué dans la mesure où ça permet de voir un petit peu l'impact que peut avoir un phénomène physique sur une population, sur des hommes, sur une structure, sur une économie, sur un fonctionnement social et politique d'une région. Mmh. Et c'est vrai que ça permet d'apprendre beaucoup de choses et de comprendre beaucoup de choses sur nos îles. Il faut bien remarquer que nous ne sommes pas sur Paris, sur la France ou à Moscou ou à New York ou quoi que ce soit de ces endroits-là. Nous sommes sur un pays, dans une île qui est soumise au risque naturel. Risque naturel majeur mmh. et risque naturel majeur et méchant de la planète. Mmh. Et donc il faut qu'on fasse avec, et ça m'a permis de devenir beaucoup plus humble et de voir que bon, il y a des choses qu'on ne sait pas, scientifiquement parlant, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas encore, mais qu'on peut vivre, on peut dépasser ce genre de phénomène en prenant les précautions d'usage qu'il faut dans les risques volcaniques, les risques sismiques ou les risques cycloniques. Et ça, c'est notre lot de quotidien de Guadeloupe, on va dire, d'habitants de la Guadeloupe.
Alors, que faites-vous durant vos jours de retraite?
Ah ben, je continue à faire par exemple comme cette émission-là, c'est cette formation, cette prévention aux populations, parce que justement nous sommes dans un pays à risque et il faut aborder la vie en Guadeloupe de manière très particulière, différemment de la vie ailleurs, qui sont des pays qui ne sont pas concernés par ces phénomènes-là. Pendant ma retraite, je bricole, je m'occupe de mon propre jardin, j'essaie d'être le plus naturel possible, le plus nature possible, et puis en fonction de ces risques naturels, le plus autonome possible de l'énergie. Je suis autonome en eau, comme certains doivent le savoir maintenant. Je suis presque autonome en électricité, etc. Donc, comme je suis un bricoleur, donc ça me permet de faire plein de choses. Et c'est vrai qu'avec ce 40e anniversaire des événements de la Soufrière, ça, bon, il y a toute cette partie historique que l'on rappelle, que je suis un des rares et derniers à avoir vécu, même si j'ai encore mes trois collègues de l'Observatoire qui sont encore vivants et qui sont à la retraite, eux aussi. Michel Feuillard étant décédé en 2013, il reste trois autres collègues avec lesquels on a eu des heures passionnantes.
Mm-hmm. Voilà, un vrai passionné. Merci encore à vous, hein, monsieur Antenor Abazac.
Merci à votre radio. Merci Cathy pour cette invitation.
Vous reviendrez quand vous voulez, d'accord ? C'est promis. Hein ?
C'est promis. C'est déjà promis. Un premier rendez-vous, mais il faut le dire à personne.
D'accord. Allez, je vous salue. On vous souhaite une belle fin de journée. Gardez votre passion. Et merci encore pour tout le travail que vous avez effectué pour la Guadeloupe et que vous continuez
à faire.
Je suis
pas le seul. Il y en a d'autres aussi qui travaillent dans le même sens. Hein. Donc, notamment la DEA et Madame Varin.
Ah, ça c'est vrai. Ça c'est voilà. Vrai. D'ailleurs, je sais qu'elle nous écoute. On va vous saluer, Madame Varin.
Bonjour Françoise.
Elle prend toujours un plaisir à être là, à écouter. Hein. Voilà. C'est différents professionnels. Merci d'être là parce que franchement, toutes ces différentes données sont très importantes hein, pour la population guadeloupéenne, voire au-delà. Merci encore. On vous souhaite plein de bonnes choses, monsieur Antenor Abazac, et on se dit à très bientôt.
Merci beaucoup et à très bientôt.
À bientôt. Radio Vie Meilleure. Radio Vie Meilleure. RVM.